Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les contemplations de Victor Hugo sont un recueil poétique majeur publié en 1856, souvent présenté comme une autobiographie versifiée autant qu'un journal intimé de l'âme. L'ouvrage rassemble plus de 150 poèmes répartis en deux grandes parties, autrefois et aujourd'hui, qui couvrent un large arc de vie, de la jeunesse à la méditation sur la mort, le deuil et le rapport au sacré. » Cette édition complète permet d'aborder le projet hugolien dans sa totalité, sans réduire le livre à quelques textes célèbres. On y voit Hugo transformer l'expérience personnelle, notamment la mort de sa fille Léopoldine et l'exil, en réflexion poétique sur le temps, la mémoire, la nature et la destinée humaine. Le recueil n'est pas seulement lyrique, il met aussi en scène une pensée de la poésie comme acte de connaissance et comme forme de révélation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une autobiographie poétique construite en deux temps, avant et après la rupture. L'un des traits les plus importants des contemplations est sa construction d'ensemble. Hugo ne juxtapose pas simplement des poèmes isolés, il organise le recueil en deux parties, autrefois et aujourd'hui, qui donne une forme lisible à l'expérience du temps. Cette architecture repose sur une coupure centrale, liée au drame familial et symbolique du deuil, qui sépare la jeunesse, l'amour et les premiers élans de la maturité blessée. Le livre devient ainsi un récit de transformation intérieure. Hugo y associe le souvenir personnel à une progression spirituelle et existentielle, ce qui explique la force de cohérence du recueil malgré la diversité des tons. Cette logique fait des contemplations un livre de passage de l'insouciance à la conscience tragique, de la présence à l'absence, de l'évidence du monde à la méditation sur son sens. La structure n'est donc pas décorative, elle donne au lecteur une expérience du temps vécu. Deuxièmement, le deuil de Léopoldine comme centre émotionnel et poétique du recueil, même si les contemplations ne se résument pas à la douleur, le deuil de Léopoldine en constitue le noyau le plus célèbre et le plus bouleversant. Hugo transforme la perte de sa fille en une série de poèmes qui explorent l'absence, la mémoire, la culpabilité, le dialogue impossible avec les morts et la persistance du lien affectif. Cette écriture du deuil évite l'abstraction, elle repose sur des scènes, des gestes et des adresses directes qui rendent la douleur concrète. Le poème devient alors un espace où l'expérience intime prend une portée universelle. Ce qui distingue Hugo ici, c'est sa capacité à faire du chagrin une forme de langage partagé, sans effacer la singularité de la perte. La force du recueil vient aussi du contraste entre la sobriété de certains textes et l'ampleur lyrique d'autres, ce qui donne au deuil une profondeur rarement atteinte dans la poésie française. Le lecteur comprend que la mémoire n'est pas simple souvenir, mais travail de survie intérieure. Troisièmement, la nature comme miroir de l'âme et instrument de méditation. Dans les contemplations, la nature n'est jamais un simple décor. Elle sert de cadre sensible à la pensée et devient un miroir des états intérieurs du poète. Les paysages, les saisons, la mer, le ciel, les champs ou la lumière permettent à Hugo de relier l'expérience individuelle à des mouvements plus vastes que lui. Cette relation entre le monde naturel et la vie intérieure est typiquement romantique. Mais Hugo lui donne une ampleur particulière, la nature n'illustre pas seulement l'émotion, elle la dépasse et la transforme. Elle aide à penser le temps, la fragilité de la vie et la continuité du monde malgré la souffrance humaine. Le recueil alterne ainsi entre contemplation paisible et vision plus grandiose, parfois presque cosmique. Cette dimension explique pourquoi l'ouvrage peut être lu comme une méditation sur la condition humaine, autant que comme un livre de souvenirs. La nature y joue un rôle de médiation, elle relie le personnel à l'universel, le sensible au métaphysique. Quatrièmement, une poésie de la révolte, de l'engagement et de la conscience morale, les contemplations ne sont pas seulement un livre d'introspection, on y trouve aussi une voie de révolte et une réflexion morale sur la société, la justice et la place du poète dans le monde. Hugo n'y parle pas seulement de lui-même. Il fait entendre une conscience qui juge les hypocrisies, les violences symboliques et les limites de l'ordre social ou religieux. Des textes comme Réponse à un acte d'accusation montrent que la poésie peut devenir prise de position esthétique et politique. Le poète défend alors la liberté de la création, l'élargissement de la langue poétique et le droit d'accueillir tous les registres du réel. Cette dimension est essentielle. Pour comprendre le recueil, Hugo ne se replie pas dans la solitude, il élargit l'expérience personnelle vers une vision plus large de l'humanité. Le livre lie donc intimité et responsabilité, douleur et conscience civique. C'est aussi ce qui le rapproche d'une œuvre de pensée, où l'émotion devient interrogation sur la vérité et la dignité humaine. En dernier lieu, une réflexion sur la poésie elle-même, entre inspiration, vision et vérité, les contemplations se distinguent enfin par leur dimension métapoétique. Hugo y réfléchit implicitement à ce que peut la poésie, à sa capacité à dire l'indicible et à produire une forme de connaissance que la raison seule ne suffit pas à atteindre. Le recueil met en avant l'idée que l'inspiration poétique n'est pas un simple effet de style, mais une manière d'accéder à une vérité plus profonde sur l'existence. C'est ce qui explique la diversité des formes, des rythmes et des tonalités. Hugo traite la poésie comme un espace d'expérimentation totale. Le poète y apparaît tour à tour témoin, voyant, confesseur et prophète. Cette ambition donne au livre une place singulière dans la littérature française, car il ne s'agit pas seulement de raconter une vie, mais de montrer comment la parole poétique peut la transfigurer. Le lecteur en retire une compréhension plus large du romantisme hugolien, une poésie qui pense, qui ressent et qui cherche à révéler ce que l'expérience ordinaire laisse dans l'ombre. En conclusion, les contemplations s'adressent à plusieurs types de lecteurs, ceux qui découvrent Victor Hugo, ceux qui veulent comprendre le romantisme français, mais aussi ceux qui s'intéressent à la poésie comme forme de mémoire et de pensée. Cette œuvre est particulièrement utile pour lire la relation entre biographie et création littéraire, car elle montre comment un vécu personnel peut devenir une architecture poétique d'une grande portée. Elle intéressera également les lecteurs sensibles au thème du deuil, de l'exil, de la nature et de la spiritualité, sans exiger une lecture purement universitaire. Ce qui distingue ce recueil d'autres livres de poésie, c'est son ampleur. Il ne se contente pas de réunir des textes lyriques, il propose une véritable construction intérieure, avec une progression, une rupture et une recherche de sens. Dans une édition complète, cette dimension apparaît encore mieux, car le lecteur perçoit la cohérence globale du projet de Hugo. Les Contemplations restent ainsi un livre essentiel pour comprendre comment la poésie peut devenir mémoire, méditation et forme de connaissance du réel. Si vous souhaitez soutenir Victor Hugo, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.